Marie.
Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. En pleine crise économique, alors que les emplois sont rares, la tentation est grande. Mentir sur son CV, s'inventer des diplômes ou des expériences professionnelles pour décrocher un job. Les candidats se laissent parfois aller à ces dérives, mais au Royaume-Uni, ces dérapages sont désormais très durement sanctionnés. Ils peuvent conduire à une peine de 10 ans de prison dans le pire des cas. L'autorité britannique en charge de la prévention des fraudes, la CIFAS, a édité début juillet un nouveau guide intitulé « Ne ruinez pas votre carrière avant qu'elle ne commence ». Le but est de prévenir les étudiants que ces petits mensonges sur le CV, ces « white lies » comme on les appelle, peuvent avoir de graves conséquences et pas que pour les jeunes diplômés. C'est le reportage de Marie Billon.
Dans son bureau de Manchester, dans le nord de l'Angleterre, Jane Hawley vérifie chaque jour la validité des CV de dizaines de chercheurs d'emploi. Ce sont les employeurs potentiels qui font appel au HEDD, le Higher Education Degree Data Check, pour s'assurer que le candidat est honnête.
Environ 6% des CV que nous vérifions contiennent une fraude. Certains mentent sur la matière qu'ils ont étudiée, d'autres augmentent un peu leurs notes. Il y en a d'autres encore qui n'ont aucune qualification et qui présentent de faux diplômes. Parmi tous ces cas, un tiers disent avoir eu leur diplôme alors qu'en fait, ils n'ont pas terminé leurs études.
Et ceux qui mentent le plus, ce ne sont pas les jeunes, ce sont au contraire les adultes, ceux qui sont au milieu de leur carrière.
Chez les adultes, il y a entre 13 et 15% de mensonges. Plus ils avancent en âge, plus ils ont tendance à mentir à propos de leur diplôme. Tout simplement parce que jamais personne n'a vérifié qu'ils avaient vraiment leur diplôme. Donc, ils changent leur licence en master, par exemple.
Les professionnels souffrent de deux choses. La première, c'est l'automatisation des candidatures. Avant, la note exacte obtenue aux examens était peut-être moins importante. Mais aujourd'hui, les employeurs utilisent un filtre qui élimine automatiquement les candidats qui n'ont pas une note minimum. Et deuxièmement, les professionnels souffrent aussi de la concurrence des jeunes diplômés.
L'autorité en charge de la prévention des fraudes dit avoir vu une forte augmentation des mensonges sur les CV ces deux dernières années. Ils ont donc publié une brochure pour que les gens réalisent ce qu'ils sont en train de faire. Beaucoup estiment qu'ils sont juste en train d'embellir les choses, que c'est un petit mensonge sans conséquence, un white lie, mais c'est de la fraude.
La brochure « Ne ruinez pas votre carrière avant qu'elle ne commence » s'adresse avant tout aux étudiants et aux jeunes diplômés. 3% d'entre eux modifient légèrement leur CV. Hélène Kempster est conseillère d'orientation à l'université de Goldsmith à Londres.
Je comprends bien pourquoi les jeunes peuvent être tentés de mentir. Ils ont l'impression que leurs compétences, leur expérience, leurs qualifications ne sont pas suffisantes pour s'en sortir sur le marché du travail. Ils se demandent comment ils vont pouvoir sortir du lot.
Pour chaque offre d'emploi ouverte aux nouveaux diplômés, il y a en moyenne 85 candidats. Dans un pays où le chômage des jeunes dépasse les 15%, l'enjeu est donc très grand. Le rôle des conseillers d'orientation appelés Career Groups au Royaume-Uni est donc primordial.
On leur apprend à présenter leur expérience de la manière la plus appropriée et efficace possible. Et s'ils ont l'impression qu'ils manquent de qualifications, on les aide à acquérir cette expérience pendant leurs études. Nous avons des accords avec des entreprises pour qu'ils aient des stages rémunérés. Ainsi, une fois leur diplôme en poche, ils ont vraiment toutes les chances de leur côté.
Malgré tout, selon une étude, 43% des étudiants et des jeunes diplômés britanniques se disent prêts à mentir sur leur CV. 68% pourraient être tentés d'acheter un faux diplôme aussi. Difficile de trouver des étudiants qui sont prêts à l'avouer de vive voix, mais tous sont choqués quand ils apprennent qu'ils risquent jusqu'à 10 ans de prison en cas de fraude.
C'est n'importe quoi, je trouve ça fou. Enfin, je suppose que ça dépend de la profession. Si vous mentez en disant que vous êtes un docteur et que vous mettez la vie de gens en danger, là d'accord, mais sinon...
Plusieurs jeunes gens ont déjà été condamnés à cause de ces white lies. Une jeune femme a été emprisonnée pour 6 mois pour avoir menti sur sa note à l'équivalent du bac et un jeune homme à 12 semaines parce qu'il avait acheté son diplôme. Certains étudiants se dédouanent cependant. Ils estiment que les choses n'auraient pas besoin d'aller aussi loin si les ressources humaines faisaient leur travail.
C'est à eux de faire des vérifications, de demander à voir les diplômes. Ils n'ont qu'à faire leur devoir.
Effectivement, seulement un tiers des entreprises font une véritable enquête. C'est quelque chose que regrette Jane Rowley, dont le métier est justement de vérifier la justesse de ses CV.
La plupart ne feront qu'appeler le dernier employeur et se satisferont de commentaires positifs. Mais ils ne savent pas toujours qui ils appellent. Ça peut être un ami que le candidat a indiqué comme fausse référence. Et aussi, beaucoup d'entreprises trouvent que ça prend trop de temps. Attendre une, voire deux à trois semaines la réponse d'une université, ça ralentit le processus de recrutement. Alors, les DRH préfèrent suivre leur instinct.
C'est donc pour ça que le HEDD a été créé pour faciliter le travail des recruteurs.
Sur notre site, nous avons référencé les coordonnées directes des personnes à contacter pour toutes les universités du pays. Et nous avons aussi 20 établissements qui nous donnent un accès direct à leurs données. Dans ce cas-là, l'employeur n'a qu'à entrer quelques infos dans le système et il reçoit le résultat de la vérification en quelques secondes.
Pris sur le fait dès le premier mensonge, le candidat malhonnête n'écope pas d'une lourde amende. Mais être pris la main dans le sac a malgré tout des conséquences durables. Quelle que soit la sanction infligée, la condamnation reste 6 ans dans les dossiers, compromettant encore un peu plus les chances de la personne de trouver un emploi.
Verra-t-on bientôt, dans les 10 prochaines années, nos centres-villes européens sans voiture ? Une utopie qui fait lentement mais sûrement son chemin. À Helsinki en Finlande, les transports en commun évoluent à une vitesse impressionnante pour mieux détrôner la voiture individuelle. À Helsinki, Pauline Curté.
Un bus qui s'adapte en temps réel aux besoins des passagers. Le projet peut sembler fou, seulement voilà, il est déjà en route. Depuis l'an dernier, les habitants d'Helsinki peuvent commander des minibus, appelés Kutsu Plus, qui adaptent leurs itinéraires au lieu de départ et d'arrivée de leurs passagers. Pour le moment, le service n'a pas rencontré de grosses difficultés d'organisation et il connaît, avec une moyenne de 5000 trajets effectués chaque mois, une popularité croissante. C'est l'agence de transport public d'Helsinki qui est à l'origine de ce projet, Unicomonde. En pratique, d'ici quelques années, les habitants de la capitale pourraient avoir accès, grâce à leur smartphone, à un réseau de transport en commun tout à fait révolutionnaire. Une application permettrait de prendre en compte les besoins précis de milliers d'usagers en même temps et déciderait quels seraient les parcours optimaux pour chacun d'entre eux. À terme, on songe même à utiliser des voitures sans conducteur pour aider les passagers à effectuer leur trajet. Cependant, l'agence de transport d'Helsinki se veut réaliste. Elle sait bien que les Finlandais, pour la plupart, continueront de posséder au moins une voiture par famille. Amateurs de sorties en forêt, il faut qu'ils puissent sortir facilement de la ville durant le week-end. Mais lorsqu'il s'agira de se rendre au travail en centre-ville, l'organisation espère qu'ils préféreront laisser leur voiture au garage.
Toute l'Europe a les yeux tournés vers l'Écosse qui décidera jeudi prochain si elle quitte ou non le Royaume-Uni. Il y a ceux qui sont dans la crainte et tous les autres, ces régions qui attendent avec impatience un signe favorable qui viendrait conforter leur propre volonté d'indépendance. Pour en parler, on retrouve Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Dites-nous, quelle région en Europe regarde avec le plus d'intérêt un possible oui au référendum écossais ?
Dans l'immédiat, ce sont sans nul doute les Catalans. La mobilisation impressionnante de plus d'un million de Catalans la semaine dernière dans les rues de Barcelone pour réclamer un vote sur l'indépendance prouve leur détermination. Et le gouvernement catalan prépare un référendum régional d'autodétermination pour le 9 novembre, soit exactement 3 semaines jour pour jour après celui en Écosse. Mais la grosse différence entre les deux scrutins, c'est que le vote écossais se tient avec l'aval de Londres, alors que Madrid refuse le principe même d'un référendum sur l'indépendance en invoquant la constitution espagnole. Mais cette interdiction aura évidemment beaucoup moins de poids si le « yes » l'emporte jeudi en Écosse. Les Catalans auront beau jeu de dire « pourquoi eux et pas nous ?»
On se tourne bien évidemment vers la Belgique où il y a une autre région qui regarde avec beaucoup d'intérêt l'actualité de cette semaine.
C'est évidemment la Flandre. Les partis flamands sont dominés depuis des années par les partisans de l'indépendance de leur région. Le NVA de Bart de Wever en tête, sous prétexte qu'ils ne veulent plus payer pour les Wallons francophones. Mais attention Frédéric, là, c'est l'avenir même du pays qui est en jeu. Sans la Flandre, on voit mal en effet quel serait l'avenir d'une Belgique amputée de 57% de son PIB et de près de la moitié de son territoire. En comparaison, le Royaume-Uni perdrait lui certes un tiers de son territoire avec le départ de l'Écosse, mais son PIB, comme sa population, serait réduit seulement de 8%. La Grande-Bretagne serait donc seulement moins grande, mais resterait une puissance mondiale. Du moins si le Royaume-Uni ne continue pas à se disloquer. Ainsi, au Pays de Galles, la dirigeante du parti nationaliste Plaid Cymru promet l'indépendance d'ici une génération si l'Écosse fait de même. Mais à toute chose, malheur est bon, cela ferait les affaires du parti des English Democrats qui milite pour l'indépendance de l'Angleterre.
Et Daniel, quels autres pays de l'Union européenne sont confrontés à des mouvements indépendantistes ?
En fait, un bon nombre. Hein. Selon les époques et les situations politiques nationales, les poussées indépendantistes évoluent, même si dans pas mal de régions d'Europe, le désir d'indépendance vis-à-vis de l'État central est souvent réel et profond et ne date pas d'hier. Ainsi, en Italie, la Ligue du Nord, qui s'est fait connaître en promettant la création d'un État indépendant, la Padanie, située au nord de la plaine du Pô, ces ligueurs ont payé cher la participation au gouvernement Berlusconi. Cette alliance avec l'exécutif romain, autrement dit avec le diable, a déboussolé les électeurs du Piémont, de Vénétie, d'Émilie-Romagne, de Ligurie et du Haut-Adige, qui eux aussi, comme les Flamands en Belgique, ne veulent plus payer pour les autres, per queste sud pigro, pour ces flemmards du Sud, comme ils disent. Il est vrai que cette Padanie réaliserait à elle seule 55% du PIB italien et serait un pays de cocagne avec le revenu par habitant le plus élevé d'Europe.
Il y a encore d'autres exemples de mouvements indépendantistes ?
On peut citer pêle-mêle les indépendantistes basques, corses, sardes, bavarois, occitans, galiciens ou même bretons. Certains sont anecdotiques, d'autres sont plus sérieux et représentent des forces politiques animées par des réseaux locaux puissants allant éventuellement jusqu'à la lutte armée comme en Corse ou au Pays basque espagnol.
Alors bien sûr, on se pose une question, est-ce une menace pour l'Europe ?
Vous savez, l'unité de l'Europe est confrontée à bien d'autres défis majeurs et ces fièvres indépendantistes sont bien plus un défi pour les États-nations. En fait, si l'Europe politique est aujourd'hui au point mort, c'est surtout parce que les États freinent des quatre fers dès qu'il s'agit d'abandonner une parcelle de souveraineté à l'Europe ou aux régions. La poussée nationaliste qu'on observe est une conséquence de ces blocages, mais d'un autre côté, elle est également désinhibée par la perspective de maintien des nouveaux États au sein de l'Union.
Merci Daniel Vigneron, on vous retrouve la semaine prochaine.
À bientôt Frédéric.
Voilà deux pays dont les destins sont désormais liés en raison de la crise, la Grèce et l'Allemagne, qui n'ont d'ailleurs pas attendu le plan de sauvetage européen pour partager un horizon commun. Dans les années 70, des dizaines de milliers de Grecs sont allés travailler en Allemagne et dans la région de l'Épire, au nord-ouest de la Grèce, une des plus pauvres du pays. Il n'est pas rare d'être salué par un Guten Tag. Ceux qui ont multiplié les allers-retours entre les deux pays ont du mal à trouver leur place. Pendant leur tour de Grèce à vélo, François Chevret et Charlotte Stivenard les ont rencontrés.
Stelios Tsepas profite de l'air frais sur la terrasse de sa maison. Sa cousine venue d'Allemagne est là. Sur la table, il y a quelques kaisers de la bière autrichienne et devant eux des champs de maïs encadrés par les montagnes escarpées de l'Épire au nord-ouest de la Grèce. Ce quarantenaire est né ici, mais il a passé son enfance à Offenbourg, en Allemagne, près de la frontière française. Ses parents travaillaient chez un boulanger industriel, loin de leur terre natale.
Ici, les gens étaient très pauvres. C'était au début des années 70. En Grèce, il y avait la junte militaire. Beaucoup de gens ont été poursuivis à cette époque. Pas mes parents, mais ce n'était pas une belle époque.
De 55 à 73, l'Allemagne a invité des travailleurs de plusieurs pays du sud de l'Europe pour redresser l'économie allemande. On les appelait les Gastarbeiter, les travailleurs invités destinés à repartir. À Offenbourg, la communauté grecque comptait entre 6 000 et 7 000 personnes. Stelios n'en garde pas un très bon souvenir. L'intégration n'était pas au programme pour lui et sa famille.
L'école était grecque. Tous les enfants l'étaient aussi. J'ai appris l'allemand comme une langue étrangère à l'école. Je ne suis jamais allé dans une école allemande. Notre cercle d'amis était aussi grec. On vivait dans une petite Grèce à l'étranger.
À l'âge de 14 ans, Stelios est revenu au pays avec ses parents qui ont pu se construire une grande maison. Agriculteur et peintre en bâtiment, il a ensuite construit la sienne juste à côté. Aujourd'hui, avec la crise, les temps sont durs pour lui, sa femme et leurs deux enfants. Mais hors de question de repartir en Allemagne, ils survivent grâce à leur champ de maïs. Maria, la cousine de Stelios, a fait d'autres choix. Comme son cousin, après avoir passé son enfance en Allemagne, elle est rentrée en Grèce adolescente. Mais elle ne voulait pas passer toute sa vie à travailler au champ. Elle est donc repartie en Allemagne. Elle travaille aujourd'hui dans l'industrie automobile.
On a gagné beaucoup d'argent en Allemagne. On a travaillé pour ça. On a construit une maison ici en Grèce et on a acheté un appartement en Allemagne. Nos enfants vont bien. Je ne peux pas me plaindre. On ne peut pas dire que l'Allemagne ne nous a pas aidés.
Avec son mari grec, lui aussi, Maria avait pensé rentrer au pays, mais la crise les en a empêchés. Aujourd'hui, il voit à nouveau des Grecs arriver en Allemagne. Plus loin dans les montagnes se trouve Kokino Lissari, un village d'une cinquantaine d'habitants. Susanna vient y passer ses vacances chaque année, c'est le village de son mari. Elle habite à Athènes, mais quand elle était jeune, elle est partie vivre avec ses parents en Allemagne. Elle y a travaillé un peu comme coiffeuse, puis elle est rentrée à 19 ans. Dans sa famille, tout le monde ne partage pas son choix. Sa mère et trois de ses oncles sont toujours en Allemagne.
Meine Mutter lebt seit 50 Jahren in Deutschland.
Ma mère habite depuis 50 ans en Allemagne. Elle ne vient que pour les vacances. Les hôpitaux, les médecins, ça ne lui plaît pas. Ma fille non plus, ça ne lui plaît pas. Elle préfère l'Allemagne. Elle veut vivre là-bas pour le travail, pour les études. Ça lui plaît plus, elle a raison, c'est mieux là-bas.
Ce dimanche, la taverne du village est pleine. Toute l'après-midi, une odeur de mouton et de cochon grillé flotte dans l'air. Susanna et son mari viennent avec plaisir ici. Elle préfère rester en Grèce car pour elle, ici, on profite mieux de la vie.
Ce qu'on a ici, on ne l'a pas en Allemagne. Manger, passer du temps à table, ça, on ne peut pas le faire en Allemagne. Les Allemands, eux, sont différents. Ils réfléchissent avant de faire quelque chose. Les Grecs, ils sont plus spontanés. Ils disent tant pis, on a de l'argent aujourd'hui. Si on n'en a plus demain, ce n'est pas grave.
Pour Susanna, les Grecs, comme les Allemands, sont responsables de la crise. Mais aujourd'hui, ce sont les Grecs qui payent. Alors comme ils l'ont fait depuis plusieurs générations, beaucoup quittent le pays.
Quand la culture s'exporte et contribue à forger une immense collection d'œuvres européennes, le Centre Pompidou à Paris est désormais partenaire d'un nouveau musée à Malaga en Espagne, dont l'ouverture est prévue en 2015, un cube transparent mais qui ne passe pas inaperçu, François Musso.
On l'appelle le cubo, littéralement le cube, c'est d'ailleurs un vrai cube d'une vingtaine de mètres de diamètre, une structure de verre, diaphane, à travers laquelle on peut voir la promenade maritime de Malaga, le bleu de la mer, le bleu du ciel, enfin presque tout le temps. Ce cube, c'est un petit centre Pompidou, littéralement. Rien à voir avec les gros tuyaux multicolores, l'aspect massif et futuriste de l'original à Paris. Mais sous les yeux, c'est bien une succursale qui se dresse sur le littoral. Personne n'a oublié l'échec cuisant de Pompidou Mobile, mais ici, le directeur Alain Seban et le maire de Malaga, le très francophile Francisco de la Torre, ont fait un pari. Mettre sur pied une véritable ambassade du centre Pompidou, version contemporaine, bleu, blanc et transparent sur 6000 m2 et dans laquelle au moins 90 œuvres feront le voyage et s'installeront ici pendant au moins 2 ans. Des tapies, des bacon, des Magritte, des Frida Kahlo ou des Chagall. Pour Paris, c'est une manière de se délocaliser pour parvenir à être, je cite, un musée global avec ses succursales. Pour Malaga, qui paiera entre 1 et 1,5 million d'euros, c'est une magnifique vitrine culturelle ici sur la Costa del Sol et ses 4 millions de touristes par an. Déjà, des milliers de locaux et de visiteurs s'arrêtent devant ce cube, le scrutent et s'interrogent. Y aura-t-il aussi des tableaux de Pablo Picasso, qui est né ici à Malaga et qui a son musée propre? Réponse l'an prochain.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site et sur Facebook et on se dit à demain.
priorité santé.